Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Images des Landes de Gascogne, 1932-1933, de Lotte Beyer. Pour préparer une thèse consacrée aux Landes de Gascogne, langue, habitat, économie, tradition populaire, société, en vue de l'obtention d'un doctorat de la faculté de philosophie de l'Université hanséatique de Hambourg, Mademoiselle Lotte Beyer, une jeune étudiante allemande née à Leipzig en 1902, visite les Landes de Gascogne. En juillet 1931 et pendant l'hiver 1932-1933. Équipée d'un appareil photographique Zeiss Icon 912, avec un pied amovible, elle investit son terrain de Bordeaux à Osgor, se déplaçant à pied, à bicyclette, en autocar, en train. C'était une femme pas très grande, avec un chapeau de feutre rond. Elle parlait un français un peu heurté, assez coulant par ailleurs, d'une apparence très efficace, très modeste. En feuilletant l'ouvrage, on découvre d'authentiques trésors. Lotte Beyer est la première à avoir identifié les bergeries courbes des petites landes de Roquefort. Elle a réalisé un véritable reportage sur un four à goudron en activité à Pissos. Les prises de vue à l'intérieur des maisons autour de la cheminée fourmillent de détails. La plupart des bâtiments, grands ou petits, qu'elle a photographiés, ont aujourd'hui disparu. En juillet 1941, elle déclare « C'était un temps intéressant et joyeux pour moi. Tant d'amabilité, tant d'hospitalité, tant d'assistance pour mes études, même chez ceux qui ne comprenaient pas le sens de mon travail. » Félix Arnaudin réalisa sa première prise de vue en 1891, la dernière en 1921. 11 ans plus tard, Lotte Beyer, avec un matériel différent et dans un autre environnement naturel, mais sur le même terrain, continue à sa manière ce travail d'inventaire. Le 2 mai 1936, à l'âge de 33 ans, Lotte Beyer est convoquée pour l'examen de doctorat à la faculté des lettres de l'Université de Hambourg. Avant de s'y soumettre, elle doit fournir en avril un certificat d'aryanité. Dans l'Allemagne de Hitler, les Juifs, frappés par les mesures antisémites depuis 1933, sont exclus des examens d'État et de la fonction publique. La thèse de Lotte porte sur le paysan de la forêt dans les Landes de Gascogne. Son travail est évalué par 2 romanistes, professeurs à Hambourg. Son directeur de thèse, Fritz Krüger, connu pour ses travaux d'ethnologie, et son collègue Otto Laufer. Ils attribuent à ce travail la mention « excellent ». Mais l'examen ne s'arrête pas là. Selon la tradition universitaire allemande, Lotte doit subir des épreuves orales dans sa discipline principale et dans 2 disciplines optionnelles. Elle a choisi l'histoire de la littérature allemande et la pédagogie. Elle obtient le doctorat avec la meilleure mention. Qui est cette jeune femme allemande qui est alors l'une des rares et des meilleures spécialistes des Landes de Gascogne? Si l'ethnologie et l'ethnologie allemande en particulier, se sont déjà livrés à l'analyse de la place des femmes dans l'évolution de la discipline, réputée être tôt et très féminisée, les pionnières et celles qui, pour diverses raisons, n'ont pas poursuivi de carrière universitaire après le doctorat, ont encore largement échappé à l'investigation. Lotte Beyer reste aujourd'hui l'une de ces presque inconnues, sans doute parce qu'elle est morte à 41 ans, sans avoir eu le temps de déployer sa carrière, ni de poursuivre ses recherches. On ignore presque tout de son enfance et de sa jeunesse, si ce n'est que l'hôte Maria Eli est née le 1er septembre 1902 à Leipzig, en Saxe, et a grandi dans une famille de confession luthérienne. Son père, Paul Wilhelm Beyer, était né en 1852 à Ellesben, la ville natale de Martin Luther. Sa mère, Elise Henriette Strubel, était née en Saxe, elle aussi, à Brinsdorf, en 1864. Comme l'hôte l'indique dans sa fiche d'inscription à l'université, ni son père ni ses grands-pères n'avaient fait d'études supérieures. Le père de sa mère avait été commerçant ou directeur d'entreprise, et celui de son père, vraisemblablement comptable. Depuis la fin des années 1880 au moins, Paul Beyer tenait une librairie dans l'une des plus grandes capitales de l'édition et du livre en Europe, au numéro 8 de la Harskerstrasse. Elle faisait aussi bibliothèque de prêt, ce qui n'était pas inhabituel à l'époque. La famille vivait non loin de là, au numéro 7 de la Grassstrasse, un bel immeuble construit au début des années 1880. L'hôte semble voir donc avoir grandi dans un milieu cultivé et libéral, accordant une place éminente à son éducation. Elle a suivi sa scolarité à Leipzig, dans des écoles de filles, puis dans une école secondaire supérieure, où elle a obtenu en 1922 l'équivalent du baccalauréat, un diplôme permettant d'entreprendre des études supérieures. Elle est donc la première de la famille à fréquenter l'université, à une époque où bien peu de femmes encore en franchissaient le seuil. Le couple a consenti des sacrifices financiers pour permettre à l'hôte de partir loin, à Hambourg, suivre ses études. En l'état actuel des recherches, on ne sait pas pourquoi l'hôte a fait le choix de la ville hanséatique, alors qu'il y avait à Leipzig, depuis le début du XVe siècle, une université de renommée internationale. Mais celle-ci avait aussi la réputation d'être très conservatrice, et la majorité des étudiants et des enseignants, au lendemain de la Première Guerre mondiale, étaient hostiles à la jeune République de Weimar. Peut-être l'hôte a-t-elle été attirée par une nouvelle université, fondée au printemps 1919, à l'initiative de la bourgeoisie commerçante de la ville. L'université de Hambourg est la première université fondée sous la République. Tout en respectant la tradition universitaire allemande, elle est plus libérale que la plupart des autres établissements d'enseignement supérieur. Son essor a été immédiat. Elle a ouvert ses portes au semestre d'été 1919 avec un peu plus de 1700 étudiants. Ils sont 4500, 4 ans plus tard, au moment de l'inscription de l'hôte. À son arrivée à Hambourg, à tout juste 20 ans, l'hôte n'a pas encore l'intention de faire des études de romanistique ni d'ethnologie. Elle s'inscrit alors à la faculté de droit, en économie politique, et paie 300 marks de frais d'inscription. Elle loue une chambre en ville et finance ses études en travaillant quelques heures comme sténodactylo. L'année 1923, marquée par la grande inflation, est terrible pour la société allemande dans son ensemble, tout particulièrement pour les étudiants. Souvent, les familles n'arrivent plus à faire face et beaucoup sont contraints d'abandonner ou d'interrompre leurs études. Le nombre des étudiants recule alors nettement dans l'ensemble des universités. On perd l'hôte de vue pendant plus de 3 ans. Est-elle restée à Hambourg en gagnant sa vie? Est-elle rentrée dans sa famille à Leipzig? Le 28 avril 1927, elle se réinscrit à Hambourg, cette fois-ci à la faculté des lettres, en indiquant l'allemand comme discipline majeure. Elle entend désormais se préparer au diplôme d'institutrice, un cursus pouvant être achevé en 3 ans. Elle a donc suivi aussi des études de pédagogie et de psychologie. L'université de Hambourg a la particularité d'être l'une des premières en Allemagne à avoir décidé, fin 1926, d'intégrer en son sein la formation des enseignants du primaire, signe de progressisme et de démocratisation. L'hôte en a immédiatement profité. Elle présente en 1930 un mémoire de 58 pages, intitulé « La forme artistique du dialogue » de 1524 chez Hans Sachs, un poète et partisan de la Réformation. En octobre de la même année, elle réussit son examen avec la meilleure mention. Entre-temps, sa situation financière est devenue très précaire suite à la mort de ses parents en 1927, Paul, et 1928, Élise. Elle continue de travailler comme sténodactylo. À partir d'octobre 1930, une fois diplômée, elle est affectée à Hambourg dans une école spécialisée pour enfants handicapés mentaux. Le 30 avril 1932, alors qu'elle enseigne à temps partiel, 5 heures par jour, et malgré ses revenus modestes, 205 marks par mois, elle s'inscrit en romanistique pour préparer le doctorat. Si à cette époque 19% des étudiants allemands, toutes disciplines confondues, étaient des femmes, Hambourg comptait un quart d'étudiantes. Luth a alors déjà entamé ses recherches en profitant des vacances d'été 1931 pour faire un premier séjour de 5 semaines dans les Landes. Au sujet de ses motivations, on peut émettre quelques hypothèses. Elle avait appris le français pendant ses études secondaires et avait échangé avec un jeune correspondant, Marc Lesbord, lycéen à Bordeaux et originaire de Sabre. Elle avait donc une certaine sensibilité pour les Landes de Gascogne et disposait d'un contact dans la région. Cela convergeait avec les intérêts du professeur Fritz Krüger, 1889-1974, dialectologue et géographe linguiste. Il avait rejoint en 1911 le séminaire de langue et culture romane de l'Institut colonial de Hambourg qui avait donné naissance en 1919 à l'université. Krüger y enseigna à partir de 1920 comme professeur titulaire à partir de 1928. Contrairement à d'autres instituts de romanistique en Allemagne, à Hambourg, la formation des étudiants en langue romane ne se limitait pas à la linguistique et à la littérature. Elle portait aussi sur les questions actuelles de civilisation. En raison de la tradition commerçante et coloniale de la ville, l'université s'était caractérisée par la qualité de ses enseignements et de la recherche sur des savoirs sur les civilisations et les espaces étrangers. Dans ses recherches, Krüger a poursuivi une tradition scientifique fondée par le romaniste Bernard Tscheidel, 1878-1926, visant à analyser l'ensemble de la culture matérielle et mentale d'un peuple, ses conditions économiques et politiques, littéraires et historiques, ainsi que ses conditions ethniques et sociales. L'accent était mis sur les régions dites archaïques, comme dans l'Opus Magnum en 6 volumes de Krüger, 1936-1939, consacré aux Hautes-Pyrénées. Celui-ci voulait, grâce aux recherches de terrain prônées par son école, saisir dans leurs derniers témoignages les cultures populaires paysannes et rurales de la Romagna, ensemble des régions où sont parlées des langues romanes, menacées par le développement industriel. Il pratiquait une linguistique très orientée vers la lexicologie, et avec son approche ethnographique, il était l'un des représentants du « Wörter und Sprachen », une méthode étudiant la relation réciproque entre les mots et ce qu'ils désignent. Le romaniste Wolfgang Settekorm décrit ainsi la pratique de l'école de Hambourg. Avec des instruments d'écriture et de dessin, des carnets de notes et un appareil photo dans leur sac à dos, les romanistes hambourgeois parcouraient différentes régions de la Romagna, surtout les plus reculées. Ce type de collecte de données supposait, outre des pas préparatifs et des moyens financiers considérables, le goût du voyage et de l'aventure, et contrairement à la seule étude des livres, était particulièrement motivant. Thank you. moment de l'inscription, en avril 1932, l'hôte avait présenté un certificat d'auditeur libre, ce qui indique qu'elle avait déjà suivi les cours de son mentor et qu'elle était déjà initiée à sa méthode des mots et des choses. Sans doute s'est-elle assurée, par un premier séjour sur le terrain, qu'elle disposait de suffisamment de contacts et de matériel pour mener à bien sa recherche. Elle s'est entre autres rendue à Sabre, où elle a été accueillie par la famille Lesbordes, par Marc et son cousin Bernard Mancier, qui lui ont fait rencontrer d'autres interlocuteurs et découvrir de premiers lieux comme Marquaise. Elle est repartie une seconde fois en France pour un séjour de 3 mois, entre le début décembre 1932 et la fin février 1933, après avoir sollicité un congé auprès de l'administration de l'éducation. Le parcours de l'hôte est alors assez similaire à celui des premières ethnologues, qui ont assuré leur revenu en enseignant dans le primaire et le secondaire, tout en menant la recherche. Les souvenirs qu'elle a gardés de ses voyages et qu'elle évoquera dans une correspondance de juillet 1941, en pleine guerre, montrent qu'elle a été bien reçue et a trouvé du soutien pour son enquête, malgré sa nationalité. Pourtant, à La Bouëyre, l'historien Élie Menot avait refusé de la recevoir. Dans un témoignage rédigé après la libération, le 3 décembre 1944, il cherchera à s'en justifier. Résistant, je l'étais avant la lettre, quand je refusais d'entrer en relation et de recevoir Mademoiselle Lotte Beyer, qui ne cherchait pourtant qu'à se documenter sur le folklore landais, auquel d'ailleurs elle a consacré diverses études. Mais j'estimais que le folklore, comme la musique, peut être un cheval de Troie. Lotte Beyer a elle-même financé ses 2 séjours, estimant leur coût à 300 marks pour le premier et 800 marks pour le second, auxquels se sont encore ajoutés les 200 marks d'inscription à l'examen de doctorat en 1936, soit plus de 6 mois de son salaire d'institutrice. Les 500 marks dont elle a hérité de ses parents ont été entièrement investis dans sa recherche, comme elle le précise dans un courrier à l'université le 11 février 1937. La seule aide qu'elle a reçue est venue du musée d'ethnologie de Hambourg, qui lui a prêté le matériel photographique. Un appareil Icon 912 avec pied, 12 films de 12 pellicules, une boîte de pastilles de magnésium pour prise de vue nocturne. Ces précisions sont consignées dans un rapport du commissariat spécial de la préfecture de la Gironde du 16 décembre 1932 à la Sûreté Générale à Paris. En effet, la police avait été prévenue de la présence d'une étrangère au comportement suspect à Socatz, prenant des photos et questionnant les habitants, et a procédé à une vérification d'identité à Ostens avant de l'emmener à Bordeaux, avec son accord, pour des investigations supplémentaires. Elle a expliqué aux autorités, documents à l'appui, qu'elle préparait une thèse sur le folklore landais, mais celle-ci était intriguée par son enquête sur la vie économique régionale, l'élevage du pin résinier et l'exploitation de la résine. Elle suspectait une entreprise d'espionnage économique alors que les relations franco-allemandes étaient de nouveau tendues après une brève phase d'amélioration dans la seconde moitié des années 1920. Mais depuis 1929, avec la crise financière et économique et la montée du national-socialisme en Allemagne, l'inquiétude s'accroissait en France. C'est d'ailleurs depuis les Landes que l'hôte devait apprendre l'arrivée de Hitler au pouvoir à Berlin le 30 janvier 1933. Dans l'impossibilité de prouver l'espionnage, la police l'a laissé repartir, tout en restant inquiète. Aussi, le 17 décembre 1932, le commissaire de Bordeaux écrivait-il à Paris. Les agissements de cet Allemand ne peuvent être poursuivis judiciairement. La feuille dactylographie en particulier, comprenant les 4 groupes de mots divers, pourrait être soumise à l'étude des spécialistes militaires, et s'il y était découvert, ce que nous ne pouvions réaliser, un langage secret, les mesures prises contre cette étrangère pourraient alors excéder le cadre d'une mesure administrative et être de nouveau du ressort de la justice. Faisant preuve de beaucoup de sang-froid, l'hôte a poursuivi son séjour comme prévu, sans laisser cet épisode impacter ses relations avec la population locale. En avril 1936, Fritz Krüger devait conclure son élogieux rapport sur la thèse de l'hôte par la mention de cet incident. L'auteur a eu à faire face à bien des difficultés. Pour le dossier de l'université, je précise que le fait d'avoir été arrêté par les autorités françaises ne l'a pas empêché de poursuivre sa recherche. Cela n'a pas de conséquences pour l'évaluation du travail, car celui-ci est incontestablement remarquable. L'approche de Krüger en termes de Volkstum, c'est-à-dire de caractère ethnique et linguistique des peuples, n'était pas incompatible avec l'idéologie nationale socialiste, même si les travaux de son équipe restaient scientifiques. Mais politiquement, Krüger, qui avait été proche des nationalistes allemands à l'époque de la République de Weimar, a été sensible aux sirènes du nouveau régime après la prise de pouvoir par Hitler. S'il adhère au Parti nationaliste en 1937 seulement, il avait soutenu dès 1933 les mesures nazies à l'université, en engrangeant des bénéfices pour sa carrière. Soulignons ainsi son manque de soutien à l'égard de son collègue Walter Kuchler, 1877-1953, dénoncé par les étudiants nationaux socialistes comme un libéral et un partisan de la réconciliation franco-allemande, et qui, de ce fait, avait été mis à l'écart en 1933. Dans l'équipe de Krüger, à Hambourg, nombre de jeunes chercheurs ont adhéré au parti nazi. Lotte Beyer aussi. Entré à la Ligue nationale socialiste des enseignants dès le 1er mai 1933, elle est membre du NSDAP depuis le 1er mai 1937 comme son mentor. Principal rapporteur, Krüger appréciait tant la collecte de matériel, l'ampleur et la diversité de la matière que la qualité et la précision de l'analyse, un véritable apport pour la recherche, ouvrant la voie à des analyses comparatives. Il la félicite aussi pour ses croquis d'objets et ses centaines de photographies. Ses clichés et la collection d'objets ont alors été remis au musée de Hambourg. Il s'y trouve toujours, et c'est une sélection de ces photographies qui est reproduite dans cet ouvrage. Enfin, Krüger souligne la richesse du matériel linguistique recueilli, crucial pour sa méthode des mots et des choses, d'autant plus, dit-il, que le gascon n'était encore guère étudié. Difficultés supplémentaires, les variations linguistiques importantes d'un lieu à un autre que le travail de l'autre permet de saisir. Son collègue, Otto Laufer, second rapporteur, insiste lui aussi sur la qualité de l'étude, malgré quelques lacunes concernant les récits populaires ou bien la religion et la religiosité des paysans landais. Selon les règles académiques en vigueur outre-Rhin, la publication de la thèse dans les délais impartis par l'université est obligatoire pour que son auteur soit autorisé à porter le titre de docteur. Lotte Beyer doit remettre 32 exemplaires publiés à l'université avant le 2 novembre 1936. Commence alors pour elle un long cauchemar. Le coût estimé de l'impression se monte à 1500 marks, une somme astronomique. Elle demande et obtient plusieurs délais, la réduction à 12 du nombre d'exemplaires à déposer, et son directeur de thèse l'aide à trouver une solution praticable. Il propose de publier la thèse en 3 parties dans la collection du séminaire de romanistique. Avec son appui, l'hôte obtient aussi de l'université une aide à la publication à hauteur de 300 marks, mais doit régler elle-même 300 marks. Pour obtenir cette subvention, elle a dû, dans une longue lettre de février 1937, justifier de sa situation financière et donner de nombreux détails très personnels, son salaire d'institutrice, l'héritage familial, la totalité des frais engagés pour le doctorat. Il lui faut également exposer son intimité. Désormais fiancée à un homme depuis 8 ans sans travail, elle doit le soutenir financièrement et subvenir à l'éducation de son fils, né d'un premier mariage. Enfin, elle confie que depuis l'hiver précédent, elle souffre d'une péritonite chronique qui lui a valu un séjour de 10 semaines à l'hôpital, suivi d'une cure d'1 mois et demi, et qu'elle n'est pas encore sortie d'affaire. Depuis novembre 1936, l'hôte a emménagé au 24 Flotowrosse, dans un nouveau lotissement construit en 1926-1927 dans le quartier de Barmbek et aujourd'hui classé au patrimoine. Elle épouse le 4 décembre 1937 son fiancé, Karl Luka, à Hambourg. Dans l'annuaire des rues de Hambourg, il est mentionné comme commerçant. En juillet 1941, elle donne naissance à un fils. Elle l'annonce à un correspondant landais, Pierre Toulgouat, 1901-1992, dans une lettre du 15 juillet, montrant que malgré la guerre, l'occupation et la censure, elle a pu maintenir un lien ténu mais chaleureux avec la France. Cependant, elle lui dit qu'elle peine à écrire une lettre en français après tant d'années où je manquais d'occasion de parler ou d'écrire en français, laissant entendre que, depuis sa thèse, elle n'a plus poursuivi ses recherches. Elle évoque d'ailleurs le réveil de tous les souvenirs de son séjour dans les Landes. Dans une dernière lettre du 25 février 1942, elle regrette de ne pas pouvoir lui envoyer les photos des maisons landaises. Monsieur Kruger m'a écrit que c'est défendu à présent. Elle espère que le musée forestier d'Osgor, que Toulgouat est en train de préparer, fait de bons progrès. Elle rappelle qu'elle a donné au musée de Hambourg tous les objets qu'elle a collectés pendant son séjour, comme des tchanks, les outils du résinier, une vieille cruche. Peut-être après la guerre, le musée pourrait vous en donner des photos. La première partie du doctorat de Lotte Beyer consacrée aux formes économiques apparut en 1937. Le deuxième, quartier et maison, a suivi en 1939 et les troisième et quatrième parties, la vie en famille et artisanat, sont sorties en 1944, après la mort de Lotte. L'édition est précédée d'un bref hommage du professeur Kruger. C'est avec beaucoup d'émotion que j'édite cette contribution qui constitue la dernière partie de la thèse du doctorat de Lotte Luka Beyer. L'auteur, qui depuis ses études a entretenu des relations très étroites avec le séminaire de romanistique de Hambourg, a été emporté à l'âge de 42 ans, le 11 janvier 1944, par une grave maladie. En publiant la dernière partie de son exposé sur le paysan de la forêt des Landes, nous la remercions de tout ce qu'elle nous a laissé. Nous garderons vivant le souvenir de sa personne simple et délicate, de son œuvre scientifique précieuse, menée infatigablement dans des conditions difficiles, et de sa personnalité pleine de courage et d'esprit. Doyen de la Faculté des Lettres, de 1941 à 1944, Fritz Kruger sera démis de ses fonctions par le gouvernement militaire britannique d'occupation en août 1945. Aussi, en 1948, il partira définitivement pour l'Université nationale de Cuyo à Mendoza, en Argentine. Cependant, les travaux de l'école de Hambourg demeurent importants pour la recherche en raison de leur approche ethnographique. Il reste souvent, comme la thèse et les photographies de Lotte Beyer, les rares ressources sur une culture passée. C'était la chronique littéraire de Gilles Labourois. À bientôt.